Les chemins de traverse, il était une fois une fée jaune, l'agence Yann. Une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Un chemin de traverse consacré à la fée jaune, l'agence Yann. Cathédrale des Estives, lançant ses hautes tiges dans les prairies d'altitude. C'est au cœur du Massif central que nous allons découvrir la plante, ses utilisations, un terroir, ainsi que les hommes et femmes l'utilisant, l'arrachant et la transformant. Bonjour et bienvenue dans la vallée de Chaudefour, au pied du Sancy. Dans cette magnifique vallée glaciaire qu'est la vallée de Chaudefour, nous sommes en compagnie de son conservateur, Éric Vallée. Lors du précédent épisode, Éric nous a parlé de ses missions en tant que conservateur. Nous poursuivons avec son histoire et...
L'agence Yann Jaune.
Un rêve réalisé, vécu au quotidien.
Et vous, de vous être installé à Chaudefour, ça a été un choix?
Ah, disons que c'était un peu un rêve.
Éric Vallée.
Disons qu'à la fin de mes études, c'est vrai que j'étais passionné de botanique et tout. Bon, le poste n'existait pas encore. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à Chaudefour, j'ai travaillé dans différents organismes. J'ai même travaillé dans une herboristerie. Et après, donc, il y a le poste qui est sorti au niveau de Chaudefour. Dès que j'ai su qu'il y avait ce poste qui se créait, ben j'ai pas hésité à postuler. En plus, c'est dans ma région d'origine, donc ça pouvait pas être mieux.
La vallée, elle n'a plus aucun secret pour vous, quand vous connaissez le monde au recoin. Quelles sont les particularités de cette vallée de Chaudefour?
Alors, au niveau de la botanique, on trouve plus de 1600 espèces différentes. Alors, pourquoi une telle biodiversité? Ben, c'est lié à plusieurs raisons. La première, c'est l'étagement de la végétation. À Chaudefour, on a deux étages de végétation. Le bas de la vallée est à 1134 mètres d'altitude. Le haut est à 1854 mètres. Et donc, entre 1100 et 1400 mètres, on a l'étage montagnard qui correspond à la série du hêtre, le hêtre, l'espèce dominante. Mmh. Et après, juste au-dessus, on a l'étage subalpin qui est asylvatique, il n'y a pas d'arbres, il correspond à la limite supérieure de la forêt. Et au niveau de la flore, on a une flore qui est totalement différente entre le bas de la vallée de Chaudefour et le haut. C'est par exemple sur le haut, on va rencontrer principalement les espèces alpines et on va rencontrer aussi des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc ça, c'est la première raison, l'étage végétation. La deuxième raison, c'est lié à la position géographique du massif qui subit différentes influences climatiques, sachant que les vents dominants, c'est les vents qui viennent de l'ouest, donc de l'Atlantique. Et on a donc des plantes atlantiques montagnardes. On a également des vents du sud et on a des plantes méditerranéennes montagnardes. Et ensuite, Chaudefour, le massif du Sancy, est situé entre les Alpes et les Pyrénées, ce qui fait qu'on a des plantes des Alpes et on a des plantes des Pyrénées. Du reste, quand on est tout à fait au fond du cirque de Chaudefour, c'est comme si on avait un bout des Alpes qui avait été collé dans la vallée de Chaudefour. Puisqu'on retrouve, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore, des espèces de montagnes. Et ensuite, on a des reliques glaciaires, c'est-à-dire des plantes qui étaient là au moment des glaciers et qui sont restées là car la neige peut séjourner longtemps. Si on a la vallée de Chaudefour, on a des tourbières dans lesquelles poussent des végétaux particuliers. Donc, deuxième intérêt, position géographique du massif du Sancy, qui subit différentes influences climatiques. Et troisième intérêt, on est dans une région volcanique et on a des roches à la fois acides et des roches basiques. Et donc, ce qui fait que, qu'on a à la fois des plantes caractéristiques des terres basiques, des plantes caractéristiques des terres acides et des plantes qui acceptent un sol plutôt neutre.
Voilà. Vous avez tout, enfin, vous donc avez les Pyrénées, grande, vous avez les Alpes, vous avez basique, diversité. L'acide.
Tout. Voilà, c'est un concentré de biodiversité.
Ah oui.
C'est
extraordinaire.
Et comme il y a les plantes, il y a les insectes aussi associés aux plantes.
Oui, il y a la faune qui va avec, bien sûr.
Il y a la faune qui va avec, voilà, c'est tout un ensemble, tout un écosystème.
Donc on voit bien cette vallée, elle est d'une grande richesse.
Tout à fait.
En plus, elle est magnifique.
Thank you.
De ce fait, dans cette biodiversité, il y a la gentiane qui pousse.
Tout à fait. Cette gentiane, elle pousse pas n'importe où. Hein. Ça, il faut un certain nombre de conditions. Hein. Déjà, c'est une plante de montagne. Bon, on la rencontre en Auvergne, principalement au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Elle n'aime pas trop la chaleur. Hein. Mmh. Après, c'est une plante qui pousse uniquement dans les prairies pâturées. Mais pas pâturées par n'importe quel animal. Il faut du pâturage par les bovins.
Et pourquoi?
Pourquoi? C'est parce que justement, le rhizome, c'est la racine de gentiane, pour pouvoir bien se développer, a besoin d'un surpiétinement, mais lourd. Ça, c'est la première condition. Et après, c'est par rapport à la fumure. La fumure, ben, les bouses de vache, ça convient très bien à la gentiane. Ça sert en quelque sorte d'engrais, hein, ça. Il faut du pâturage par les bovins. Et du pâturage extensif, il ne faut pas que ce soit...
Oui,
pas du surpâturage.
Il ne faut pas de l'intensif.
Ouais. Voilà.
Mais les bovins, ils ne mangent pas la gentiane aussi? Enfin, il n'y a pas...
Alors,
s'ils ont trop ses racines, c'est bien, mais...
Alors, justement, il faut qu'il y ait une gestion par rapport à la gentiane, sachant que la gentiane, les bovins, ils l'adorent. Je vous raconterai une petite anecdote. Les premières années que j'étais à Chaudefour, un jour, toutes les têtes, les fleurs en florales de gentiane, il n'y en avait plus. J'ai dit, mais il y en a qui sont venus ramasser les fleurs de gentiane. En plus, le travail est bien fait. L'année d'après, j'ai vu les coupables. Et alors, il y a une période, c'est justement quand les fleurs sont à maturité, elles doivent dégager un certain parfum. Hein. Et j'ai vu les vaches qui allaient de fleur en fleur. Et en plus, elles avaient la technique. C'est-à-dire, elles arrivaient dans un ouvre-bouche et elles donnaient un coup sec pour manger la fleur. Et comme la tige est un peu articulée, hein, eh ben, ça cassait bien net. C'était pour ça que le travail était bien fait.
D'accord.
Voilà.
Avant d'aller plus loin, il est primordial de préciser que la protagoniste de cette série d'émissions est la gentiane jaune, Gentiana lutea L, faisant partie de la famille des gentianacées. Famille comptant pas moins de 1200 espèces réparties dans 80 genres. Le plus grand nombre d'espèces revient au genre gentiana, comptabilisant 362 espèces, dont la gentiane jaune. La Chine est le berceau des gentianes avec près de 248 espèces sur les 362. En Europe, une trentaine sont présentes. La gentiane jaune est l'espèce la plus exploitée et la plus valorisée. Revenons à la botanique de la gentiane jaune avec Éric Vallée qui la surnomme « plante de lumière ».
Vous nous expliquez un peu le cycle oui. de vie de la gentiane.
Alors, elle met 10 ans avant de fleurir. Et après, dès qu'elle a fleuri, elle donne des rejets tous les 3-4 ans, des bébés gentianes.
Des rejets et qui partent de la base
qui partent de au niveau du rhizome. Ça fait comme des nœuds avec des bourgeons. Et après, ces nœuds se développent et donnent des jeunes plants. Alors c'est pour cette raison aussi, ben, dans une prairie, il arrive un moment où il n'y a que des gentianes. Donc pour l'agriculteur, c'est pas trop bien. D'où la nécessité d'avoir une gestion. Mais alors, attention dans la gestion, de ramasser les plantes mères avec une fourche à dedans qu'on appelle la griffe du diable. Sinon, ben, on a constaté que ces dernières années, il y en a qui allaient avec des petites pelles mécaniques. Seulement dans le cadre de la gestion durable de la gentiane, c'est pas trop bien parce qu'il faut laisser les petits. Hein,
oui, ils arrachent tout, là. Oui.
Voilà, ils arrachent tout. Hein. D'où l'utilité de prélever uniquement les pieds mères. Alors, justement, c'est facile quand on ne sait pas. Mais pour savoir au niveau du pied, à quel moment il faut le récolter, à partir de quel âge, sachant que la plante fleurit au bout de la 10e année. Au niveau des principes actifs, bon, on dit le maximum principe actif entre 20 et 25 ans. Donc, il faut voir la plante mère et le nombre de petits qui est à côté. Et sachant que s'il y a, mettons, 4 jeunes gentianes, ben on multiplie 4 fois 3 à 12, plus 10, ça fait 22 ans. Voilà. Pour ramasser vraiment les plantes mères par rapport aux principes actifs. Sinon, la gentiane, dès qu'elle a fleuri une année, le plant mère, il fleurit chaque année.
Par contre, s'il y a moins de 10 ans, ça ne fleurit pas.
Ah, ça ne fleurit pas, voilà.
Mais comment ça se passe après pour se reproduire ?
Il y a plusieurs systèmes de reproduction. Donc, il y a déjà le système racinaire, c'est-à-dire le rhizome, qui s'allonge là au fur et à mesure, au fil du temps. Et après, par l'intermédiaire des graines aussi. C'est un autre mode de reproduction.
Donc, elle a deux modes de reproduction.
Deux modes de reproduction. Système racinaire et puis par l'intermédiaire des graines. Alors, c'est pareil au niveau du système des graines. Ben justement, quand on est avec le réchauffement climatique, et ben, étant donné qu'elle a besoin d'humidité, de froid, et s'il n'y a pas des conditions extrêmes, et ben, disons des conditions pas assez de froid, tout ça, peut-être le mode de reproduction par les graines sera moins efficace que le mode de reproduction par intermédiaire de son rhizome qui est sous terre, donc à l'écart des grosses variations de température.
D'accord. Donc, par certains côtés, elle a une chance d'avoir deux moyens de reproduction.
De dispersion, ça c'est bien.
Parce qu'elle n'en aurait qu'un, il y aurait peut-être un peu de soucis à se faire.
Voilà, c'est ça. Pour ça,
plus de soucis à se faire.
Elle a des atouts de ce côté-là.
Et là, au niveau d'un point de vue évolution climatique, une des problématiques qu'on a, c'est la germination de la gentiane qui est un petit peu compliquée, parce que c'est une plante dont la levée de dormance de la graine est complexe.
Stéphanie Flau, animatrice de l'association interprofessionnelle de la gentiane jaune.
La graine a besoin de froid et d'humidité l'hiver pour pouvoir lever cette dormance et puis germer au printemps. Donc la couverture neigeuse en montagne, c'est idéal en fait pour la gentiane, et cette couverture neigeuse, elle est plus continue depuis quelques années, surtout en moyenne montagne, où on va avoir des moments en mars, avril, où il n'y a pas de neige au sol, et où le soleil va taper vraiment très fort à un moment où la végétation n'est pas encore suffisamment développée pour protéger les graines. Donc on a un souci de germination de la gentiane.
Alors du coup, il y en a dans la vallée, là, la vallée de Chaux-de-Fou.
Il y en a dans la vallée de Chaux-de-Fou.
Là, elle est protégée.
Elle est protégée, voilà.
Elle est ramassée quand même, c'est géré par les agriculteurs.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu certaines années des ramassages. Pour vous donner un exemple, au niveau de la vallée de Chaux-de-Fou, normalement, la cueillette est interdite. Hein. Mais il faut regarder, à un moment donné, dans le cadre de la biodiversité. S'il arrive un moment où elles se touchent toutes, où il y en a trop, hein, et ben elles prennent le pas sur d'autres plantes.
Et oui.
Donc il peut y avoir des fois une perte de la biodiversité. Donc dans ces cas-là, il faut voir par rapport à l'intérêt de la réserve naturelle, mais pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, ben, ça passe par des autorisations, avec un cahier des charges, c'est-à-dire ben, ne pas venir avec des gros engins et tout ça, pour détruire le milieu. Et puis utilisation d'une manière douce, en utilisant par exemple cette bêche, enfin avec
la fourche du diable.
La fourche du diable, voilà, utiliser la fourche du diable.
Et vous l'avez vu, ça a été arraché déjà, vous avez vu?
Alors il y a certaines portions, là, où, quand j'étais au début de la création de la réserve, là, vers la montagne de la Plaque, il y a eu justement un arrachage gentiane et un propriétaire privé, oui, tout ça.
La gentiane, plante majestueuse avec ses étages de belles fleurs jaunes, les verticilles.
Du simple par un botaniste, qu'est-ce qui caractérise une gentiane ?
Ça fait partie du groupe des gamopétales, c'est-à-dire plantes qui ont les pétales soudés entre eux. Hein. Ça, c'est une caractéristique, parce que dans la botanique, il y a des pétales sépales qui sont libres entre eux, d'autres qui ne possèdent pas de pétales. Et la caractéristique de cette gentiane, ben justement, c'est qu'il y a les pétales qui sont soudés entre eux.
Mais après, qu'est-ce qui fait que c'est gentiane ? Et que c'est pas autre chose, parce qu'il n'y a pas que la gentiane qui a les pétales soudés entre eux.
Justement, ce qui fait que c'est qu'elle a au niveau de l'inflorescence est sur plusieurs niveaux. Hein. Ça, c'est un autre caractère.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des fleurs à plusieurs étages. Fleurs,
disons que c'est un peu comme si c'était en épi, hein. C'est pas une fleur simple, et les fleurs aussi sont groupées. Hein.
Un peu comme la rose trémière, quoi, en quelque sorte.
Voilà.
Et le fait que ce soit un rhizome aussi, peut-être, non ?
Pas obligatoirement, parce qu'il y a d'autres plantes qui... Dans le système racinaire, un truc qui font partie des gamopétales. La différenciation, c'est vraiment par rapport à la fleur et la disposition au niveau de la fleur.
Nous commençons à en connaître un peu plus sur la gentiane. Suite de cette rencontre avec Éric Vallée, lors de notre prochain rendez-vous. Au revoir et à très bientôt.